bienvenue à vous qui nous suivez sur Radio Orient. Il est 17h avec vous, Nadia Bencher, pour l'essentiel de l'actualité. Au sommaire de cette édition, au Liban, le bilan des attaques israéliennes s'alourdit. Le ministère de la Santé fait état de plus de 1000 tués, dont 118 enfants. La guerre au Moyen-Orient et de nouvelles attaques iraniennes. Plusieurs explosions ont été entendues cet après-midi à Manama, la capitale de Bahreïn. Dans le dossier du jour, la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences sur l'approvisionnement alimentaire des États du Golfe, perturbé par le blocage d'Hormuz et les bombardements, nous dira Marc Aurel Barrez. Les municipales et le second tour ce dimanche. À droite, après le retrait de Sarah Knafo, Rachida Dati se retrouve seule en lice dans son camp et veut croire à la victoire. Vous entendrez Samia Badat Karam, première adjointe au maire du 16e arrondissement. Et puis la fin du mois sacré du Ramadan, ce sera ce vendredi avec la célébration de l'Aïd al-Fitr. Le recteur de la mosquée de Paris, Shamseddin Hafez, adresse un message de vœux et d'unité aux musulmans. Bonjour à tous. Au Liban, les frappes israéliennes ont fait plus de 1000 morts depuis le 2 mars, selon le ministère de la Santé. Parmi les victimes, 118 enfants, 79 femmes et 40 membres du personnel soignant. Les autorités libanaises font aussi état de 2584 blessés depuis le début de la guerre avec le Hezbollah. Des explosions ont été entendues cet après-midi à Manama, la capitale de Bahreïn. Selon une journaliste de l'AFP sur place, le royaume est visé par de nouvelles frappes iraniennes dans le cadre des représailles menées à travers le Golfe. Depuis le début du conflit, le 28 février, ces attaques ont déjà fait 2 morts à Bahreïn, d'après les autorités. C'est dans ce contexte que le Qatar prévient que l'attaque iranienne sur son site gazier a de lourdes répercussions sur l'approvisionnement énergétique mondial. La France, le Royaume-Uni et 4 autres pays se disent prêts à contribuer à la sécurisation du détroit d'Hormuz. Ils condamnent les attaques iraniennes contre des navires commerciaux et des infrastructures énergétiques dans le Golfe. Les 6 pays réclament par ailleurs un arrêt immédiat des frappes visant les installations civiles. La quasi-totalité des Français qui souhaitaient quitter le Moyen-Orient ont pu rentrer, annonce le Quai d'Orsay. Depuis le début de la guerre, 17 000 personnes sont revenues en France, principalement sur des vols commerciaux. Emmanuel Macron dément toute intervention en faveur du retrait de Sarah Knafo dans la campagne municipale à Paris. Le chef de l'État répond aux accusations du socialiste Emmanuel Grégoire qu'il juge infondées et pas sérieuses. Cette polémique s'invite en pleine bataille parisienne entre la gauche, la droite et le camp présidentiel. Après l'attribution sur tapis vert du titre de la CAN 2025 au Maroc, plusieurs sites de paris sportifs français ont décidé d'indemniser aussi les parieurs ayant miser sur le Maroc. Ces derniers parlent d'un geste commercial exceptionnel sans revenir sur les gains déjà versés pour le Sénégal. Chez l'un des sites, plus de 25 000 joueurs sont concernés par cette mesure. Enfin, l'artiste soprano retrouve la tête du classement des personnalités préférées des 7-14 ans devant Victor Wembanyama et Olivier Giroud. Les sportifs dominent largement ce palmarès 2026 du journal de Mickey avec 12 représentants dans le top 50. Autre enseignement, la première femme, la chanteuse Marine, n'apparaît qu'à la 10e place. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour. La guerre se poursuit au Moyen-Orient et ses effets dépassent désormais la seule question pétrolière. Entre le blocage du détroit d'Hormuz et les bombardements, l'approvisionnement alimentaire des États du Golfe est lui aussi fragilisé. Face à cette crise, les routes commerciales se réorganisent. On voit cela avec vous, Marc-Aurel Barrez.
À Bahreïn, pas de pénurie dans les supermarchés pour l'instant. Les rayons restent garnis malgré la guerre. Pour autant, le prix des marchandises dans le pays se fait sentir à la caisse, surtout pour les produits frais. Le problème pour la petite monarchie du Golfe, mais aussi pour ses voisins, c'est sa dépendance aux importations, surtout pour ce qui concerne l'alimentaire. La guerre perturbe gravement le transit via le très stratégique détroit d'Hormuz. Il reste fermé et au-delà du pétrole, du gaz, ce sont aussi beaucoup d'aliments qui ne peuvent ni transiter, ni être déchargés. Les ports et les aéroports, eux aussi, tournent au ralenti. Au Koweït, aux Émirats arabes unis et au Qatar, ces piliers logistiques sont quotidiennement paralysés, la faute aux attaques de drones et de missiles iraniens. Il y a des alternatives terrestres par la Syrie ou la Jordanie, mais ces voies sont saturées, coûteuses, et en l'état seraient incapables de compenser la paralysie actuelle du trafic.
Mais alors, comment s'organisent ces États pour continuer à s'approvisionner ?
Des camions, beaucoup de camions et un rôle clé de l'Arabie Saoudite. Depuis le début de la guerre, elle se positionne en carrefour logistique, son espace aérien, ses ports de la mer Rouge restent ouverts. Alors le royaume renforce ses réseaux de transport, recompose sa logistique pour accueillir les cargaisons détournées de ses côtes orientales. Preuve de cette reconfiguration, ces derniers jours, des journalistes de l'AFP ont observé de nombreux poids lourds franchir la frontière avec le Qatar.
Les États du Golfe sont-ils égaux dans cette crise ?
Non, ils ne le sont pas. On l'a dit, l'Arabie Saoudite dispose d'un accès direct à la mer Rouge. Les Émirats Arabes Unis ont annoncé 4 à 6 mois de stock. Le Qatar, quant à lui, a massivement investi dans des réserves depuis le blocus de 2017. Au final, pour l'instant, les plus touchés, ce sont Bahreïn et le Koweït. À la caisse, leurs consommateurs paient déjà le prix du conflit.
Merci Marc-Aurèle Barrès pour ces précisions. Place dimanche prochain au second tour des élections municipales. À droite, le paysage s'est clarifié après le retrait de Sarah Knafo et son rapprochement avec la liste de Pierre-Yves Bournazel. Rachida Dati se retrouve désormais seule dans son camp et veut croire à la victoire. Samia Badat Karam, première adjointe au maire du 16e arrondissement, conseillère de Paris et proche de Rachida Dati, revient sur cette recomposition politique.
Alors que ce soit le retrait de la candidate Sarah Knafo ou que ce soit la fusion avec les listes de Pierre-Yves Bournazel, dans les deux cas, je les remercie parce que je pense que ces deux personnes ont agi en responsabilité, en pensant à leurs électeurs. Moi je pense que aucun candidat n'est propriétaire de ses électeurs et que les électeurs à la fois de Madame Knafo et à la fois de Monsieur Pierre-Yves Bournazel méritent notre plus grand respect et que ce sont ces électeurs d'ailleurs qui feront leur choix en leur âme et conscience dimanche et que donc les décisions qui ont été prises par les candidats sont des décisions responsables, il faut le saluer parce qu'en fait ce qui est important c'est qu'après 25 ans de mauvaise gestion dont on a pointé tous les aspects, il est important de mettre une équipe solide, expérimentée au pouvoir et je pense que c'est ce qui a animé toutes les décisions qui ont été prises à la fois par Mme Knafo et à la fois par M. Bournazel.
Et quels sont les points de convergence entre Sarah Knafo et Rachida Dati ?
Encore une fois, je pense que le point de convergence entre ces candidats et surtout leurs électeurs, c'est d'avoir une gestion saine et rigoureuse de la ville de Paris. Tant sur le point des finances, on a tous parlé des finances, c'est cette gestion calamiteuse, la dette qui a explosé, les subventions de 300 millions d'euros pour des associations qui n'ont aucune action locale. Ça, c'est un point, je crois, qui est commun à tous ceux qui veulent mettre l'équipe Hidalgo-Grégoire dehors. La gestion calamiteuse du périscolaire, tous les jours on découvre une nouvelle catastrophe. Enfin, moi ça fait 12 ans que je suis élue à la mairie du 16e, 6 ans que je suis conseillère de Paris, moi j'ai pas arrêté d'alerter dans le groupe de Rachida Dati la majorité sur les défaillances, pour ne pas dire les manquements extrêmement graves dans le domaine du périscolaire. Ils n'ont jamais écouté, ils m'ont caricaturé.
Le bilan d'Emmanuel Grégoire.
Le bilan d'Emmanuel Grégoire.
Les convergences entre Rachida Dati et Sarah Knafo, est-ce qu'il y a des points commun, idéologique, ou alors ces deux personnalités politiques sont-elles radicalement éloignées ? Il peut être reproché à Rachida Dati justement de tendre la main à une femme qui est qualifiée d'extrême droite.
Le programme de Madame Knafo, et puis surtout, parlons surtout des électeurs de Madame Knafo, il y a parmi les électeurs de Madame Knafo des gens qui ont juste envie d'avoir une gestion saine et rigoureuse à Paris. Et donc je pense que ces électeurs, encore une fois, il ne faut pas les caricaturer.
Samia Badat Karam, première adjointe au maire du 16e arrondissement, élue au Conseil de Paris au micro de François-Xavier de Calonne. La fin du mois sacré du Ramadan, ce sera ce vendredi avec la célébration de Aïd al-Fitr. L'annonce a été faite hier soir à la Grande Mosquée de Paris lors de la Nuit du Doute. Radio Orient était sur place. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamseddine Hafez, a également adressé un message d'unité et de solidarité aux musulmans.
Je voudrais profiter de l'occasion d'être sur Radio Orient de dire à tous les responsables musulmans, à tous les responsables de mosquées, d'être vigilants sur cette question et de chercher en permanence l'unité des musulmans. C'est important pour nous. Et à ce titre-là, nous avons donc décidé que l'Aïd, donc le premier jour de Shawwal, sera donc le vendredi 20 mars. Et à cette occasion, je voudrais adresser aux auditrices et aux auditeurs de Radio Orient, Saha Aïdkoum, meilleurs voeux. Dans ce moment difficile, hein, nous savons que aujourd'hui l'état du monde est malheureusement déplorable. Je voudrais qu'on ait une pensée pour toutes celles et ceux qui souffrent, notamment à Gaza, au Soudan, dans les pays où il y a aujourd'hui encore des guerres. Il y a des gens qui n'ont pas de toit, qui vivent de manière errante. Et je voudrais qu'on ait sur la base des fondements essentiels de notre religion une pensée pour les plus vulnérables, une pensée pour ceux qui sont dans les hôpitaux, pour les personnes qui sont malades, pour les personnes qui sont seules. Ayons une pensée pour eux. Ne nous réjouissons pas simplement de terminer ce beau mois du Ramadan.
Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamseddin Hafez, au micro de François-Xavier de Calonne. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci d'y avoir prêté attention. Merci à Mohamed El-Bezeri pour la mise en onde. Merci de votre fidélité et excellent début de soirée.